Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
L'histoire que je vais vous raconter cette semaine est celle d'un incroyable échec politique. Comment Alain Juppé, alias le meilleur d'entre nous, a-t-il réussi à faire élire comme maire de Bordeaux l'écologiste Pierre Urmic, en parvenant au passage à faire passer cet homme qui est élu municipal depuis 25 ans pour un homme neuf? Et oui, le nouveau maire de Bordeaux s'appelle Pierre Urmic et non Nicolas Florian, candidat soutenu par Alain Juppé. Comment réussir à rater sa succession en six leçons? C'est le super fail de la semaine, exploré dans un livre, La chute de la maison Juppé, aux éditions du Bordelot, un livre signé Xavier Sota et Jefferson Desport, que vous allez entendre dans quelques instants.
Super fail.
Première leçon, ne pas réussir à imposer dans son camp la personne supposée vous succéder, en l'occurrence, cette femme, c'était Virginie Calmels, une femme qui n'a jamais réussi à s'implanter à Bordeaux, comme me l'a expliqué Jefferson Desport.
Alors Virginie Calmels, c'est un profil très particulier. Elle vient de l'entreprise, elle arrive en 2014. C'est Alain Juppé qui va la chercher. Jusque-là, elle n'apparaît dans aucun écran radar politique. Elle travaille chez Endemol, elle est passée aussi par Canal+. C'est quelqu'un qui vient du milieu de l'entreprise, qui accepte la proposition d'Alain Juppé de faire ses premiers pas en politique avec l'ancien Premier ministre. Elle y va, sauf que ça ne passe pas du tout parce que Alain Juppé a déjà un entourage. Tout le monde la perçoit très vite comme une concurrente. Elle s'y prend pas très bien non plus avec les élus de Bordeaux. Elle est cassante, elle est hautaine. Ça ne passe absolument pas avec les proches d'Alain Juppé. Et il y a une guerre de tranchées qui s'ouvre en particulier avec le directeur de cabinet d'Alain Juppé qui est Ludovic Martinez. Et avec le temps, ça se crispe davantage encore. Et à la fin, Virginie Calmels décide de partir. Il y avait pourtant un deal entre Alain Juppé et Virginie Calmels. Ce deal, c'était qu'il fallait qu'il devienne président de la République. Si tel était le cas, elle aurait pris la mairie de Bordeaux à sa place, elle lui aurait succédé.
Oui, oui, Virginie Calmels a failli succéder à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, mais pour cela, il y avait deux petits préalables. Le premier, c'est qu'Alain Juppé remporte la primaire de la droite, et le second, qu'il soit élu à l'Élysée. Disons que la volonté des militants de droite d'une part, des Français d'autre part, en a décidé autrement. D'autant qu'Alain Juppé n'a pas vraiment eu le temps d'organiser sa succession, tout simplement parce que le 13 février 2019, il est parti précipitamment de Bordeaux pour devenir président du Conseil constitutionnel.
Dans mon dictionnaire amoureux qui porte bien son nom, j'ai voulu faire partager les sentiments que j'éprouve pour ma ville, notre ville, ses hommes et ses femmes. Je garderai en moi sa marque indélébile. Place maintenant à la relève. Nous ne sommes pas en monarchie et il ne me revient donc pas de désigner un dauphin. Je réunirai cette semaine la majorité municipale, puis la majorité métropolitaine, et c'est collectivement que nous choisirons celui ou celle qui se présentera ensuite au suffrage du conseil municipal et du conseil de métropole. J'ai pleine confiance dans le sens des responsabilités de celles et de ceux que j'appelle toujours mes équipiers.
Il adoube Nicolas Florian dans l'urgence, dans la précipitation. Nicolas Florian, c'est son adjoint aux finances, c'est un fidèle, c'est un membre du premier cercle, mais qui lui non plus n'était pas au courant de ce départ d'Alain Juppé. Il y avait un choix, c'était ou lui ou Virginie Calmels. Et quelques jours avant que Alain Juppé ne quitte la mairie de Bordeaux, elle l'informe de son souhait de repartir dans le privé. Il adoube Nicolas Florian, mais est-ce que c'est un choix par défaut ou pas? Les proches Nicolas Florian disent non. Alain Juppé lui témoigne sa confiance, mais dans les faits, c'est une succession qui se fait dans l'urgence.
Écoutons Nicolas Florian le jour de son intronisation comme successeur putatif d'Alain Juppé.
Alain Juppé, je le remercie d'abord à titre personnel pour l'attention amicale qu'il m'a toujours témoignée depuis tant d'années. Il m'a fait grandir à ses côtés et notre amitié s'en est trouvée renforcée. Et puis plus que tout, il est mon ami, je suis son ami, et c'est ça qui compte. Alain Juppé, c'est un parent politique, mais c'est aussi un modèle pour moi dans la pratique de la chose publique.
Deuxième leçon, Alain Juppé choisit de ne pas choisir. Il rechigne à aider son propre camp.
Si on veut vraiment revenir sur la genèse de l'échec de la Juppéi à Bordeaux à la faveur de ses municipales, il faut voir deux choses. Quand Alain Juppé quitte Bordeaux, certes il adoube Nicolas Florian, mais il ne verrouille pas Bordeaux auprès d'En Marche ni d'Emmanuel Macron. Il ne dit pas « attention Bordeaux, c'est chasse gardée ». Ne venez pas interférer dans ma succession et dans mon projet. Ça n'apparaît pas. Et donc, quand Nicolas Florian est adoubé, il prend le pouvoir, il devient le maire de Bordeaux, il devient l'héritier. Mais ça n'empêche pas les marcheurs de regarder Bordeaux avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination, et notamment l'un d'entre eux, Thomas Cazenave, qui est un proche d'Emmanuel Macron. C'est un intime. Ils étaient voisins de bureau à l'Inspection Générale des Finances, ils se connaissent depuis longtemps, et Thomas Cazenave a le feu vert d'Emmanuel Macron pour faire campagne à Bordeaux. Thomas Cazenave a aussi rencontré Alain Juppé à plusieurs reprises, on le raconte dans le livre, et jamais Alain Juppé ne le dissuade de ne faire campagne, bien au contraire.
Alain Juppé s'efface, il sort du jeu. Il pense que la raison va l'emporter et que les deux partis vont faire alliance. Oui, mais en politique, la raison est rarement présente. En lieu et place du traditionnel win-win, gagnant-gagnant, chaque camp pense pouvoir l'emporter, ce qui va contribuer à les faire échouer, bien sûr, tous les deux. D'autant qu'il n'y a pas que le successeur d'Alain Juppé et le favori d'Emmanuel Macron, qui a le migou, la malchance dans cette histoire. Il y a aussi le socialiste, enfin l'ancien socialiste. D'où la troisième leçon. Si vous voulez gagner une élection locale, inutile de dépêcher trop de candidats qui passeront pour des technocrates parisiens.
Là, c'est une subtilité un peu plus locale et assez particulière. Vincent Feltès vient du Parti Socialiste. C'est l'ancien conseiller politique de François Hollande sous le quinquennat de François Hollande. Sauf que Vincent Feltès, après l'épisode Hollande, quitte le PS. Il essaie d'avancer tout seul, de sortir des partis. Il pense que l'ère des partis est terminée. Et Vincent Feltès a été le président de la CUB, a travaillé avec Alain Juppé. Ils se connaissent, ils s'apprécient. Mais surtout, Vincent Feltès est en rupture avec le Parti Socialiste local. Entre eux, on est dans la détestation, vraiment. Ce qui fait que lui avance de son côté. Il ne veut pas faire l'alliance avec Pierre Urmic, avec cette écologie dont on va parler. Donc il avance de son côté. Alain Juppé, dans ses nombreuses interrogations, est allé jusqu'à lui proposer une alliance. Il sonde Vincent Feltès. Vincent Feltès est plutôt réceptif. Et comme on le raconte dans le livre, à un moment, ça ne va pas au-delà de la discussion. Et finalement, cette alliance ne se fait pas. Donc il suit, on va dire, son bonhomme de chemin. Mais il est vraiment isolé sur la scène bordelaise. Et les sondages commencent à être catastrophiques pour lui. Il est totalement décroché. Et il finit par jeter l'éponge.
D'autant que le Parti Socialiste peut compter sur la gauche radicale bordelaise pour lui savonner la planche. Car celle-ci a bien l'intention de tirer son épingle du jeu. D'où la quatrième leçon. Ne négligez pas les capacités de nuisance d'une force politique que vous avez sous-estimée, comme va nous l'expliquer Jefferson Desport.
Alors, il y a une gauche radicale qui s'interroge très tôt dans la campagne. Elle est incarnée par deux tendances. La France insoumise, ici localement par le député Loïc Prud'homme, qui est député, c'est le seul député La France insoumise de la région, et par le NPA, où on retrouve une figure bien connue, qui est Philippe Poutou, l'ancien candidat à la présidentielle, et surtout l'ancien syndicaliste de l'usine Ford, qui a fermé. Les deux entités ne sont pas forcément proches, et ça réfléchit beaucoup. La France insoumise commence par discuter avec le reste de la gauche. Et Loïc Prud'homme est convaincu d'une chose, c'est qu'il y a peut-être un ticket à faire avec le NPA, avec Philippe Poutou. Il y a peut-être quelque chose à créer, parce que Bordeaux a été un des bastions des Gilets jaunes de ce mouvement-là. Et des passerelles commencent à être posées. C'est très compliqué au niveau de la gauche radicale. On s'engueule beaucoup. Et finalement, ils arrivent à surmonter toutes leurs différences et à monter une liste.
Double effet qui se coule. La présence de la gauche radicale va permettre de faire passer le vert Pierre Urmic pour un modéré, lequel va rassembler largement. Alain Juppé a ainsi créé un boulevard pour ses adversaires. Telle est la cinquième leçon.
Pierre Urmic est un avocat bordelais. C'est quelqu'un qui est élu depuis 25 ans au conseil municipal. C'est l'opposant historique à Alain Juppé. Sa grande force, c'est qu'il est apparu comme nouveau, alors que c'est tout le contraire. Pierre Urmic est élu depuis 1995. Il fait partie des meubles à la mairie de Bordeaux. Et pourtant, il avance et il se montre un redoutable stratège. Stratège d'abord avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste. Et très tôt, dès l'été, il crée quelque chose qu'on appelle l'appel de Bordeaux. Et très tôt, il sécurise finalement cette gauche-là autour de lui, il l'emmène, mais il lui tord le bras. Et Pierre Urmic est convaincu d'une chose, c'est quand Alain Juppé part pour le Conseil constitutionnel précipitamment, comme on l'a dit, lui voit un espace s'ouvrir et se dit c'est le temps de l'ouverture, c'est le temps de l'alternative.
Alors bien sûr, une alliance aurait pu changer la donne, mais pour échouer grandement, autant faire ce qu'il faut faire quand il est trop tard. C'est la sixième leçon.
Il va y avoir un deuxième tour qui va être déterminant, puisque Nicolas Florian et La République En Marche et Thomas Cazenave vont faire une alliance, que l'on raconte, avec des tractations qui vont être difficiles, qui vont être faites dans l'urgence, dans la dernière minute. Tandis que de l'autre côté, Pierre Urmic, lui, a déjà sécurisé sa position. Il fait une action en justice juste avant le deuxième tour. Il dénonce les pratiques faites par l'équipe Cazenave Florian, avec tout un système de procuration. Il attaque au tribunal administratif, ça ne porte pas, mais ça a un écho quand même dans la population. Et sur cette campagne, évidemment, l'écologie a été un moteur, chacun a voulu verdir son programme. Pierre Urmic s'est présenté comme un écologiste historique, ce qu'il est, et pas un écologiste d'opportunité, comme il a enfermé ses adversaires dessus. Bordeaux en lutte, la liste emmenée par Philippe Poutou, a défendu une vision beaucoup plus sociale. Il n'a pas ménagé la gauche emmenée par Pierre Urmic. Il estime que la gauche de Pierre Urmic, de toute façon, c'est la droite, c'est une forme de libéralisme lui aussi. Ça a été très très dur entre Pierre Urmic et Philippe Poutou. Et d'ailleurs, Nicolas Florian a largement compté sur cette bataille à gauche pour essayer de l'emporter.
Alors bien sûr, Bordeaux n'est pas la seule grande ville à être passée aux écologistes, comme nous le confirme Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos.
Alors je crois qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que dans la plupart de ces villes, le maire sortant, l'équipe sortante était installée depuis longtemps. C'était vrai à Bordeaux, c'était vrai à Lyon, c'était vrai à Lille. Et qu'il y avait de toute façon une certaine lassitude et un désir de changement. À ce désir de changement s'est ajoutée une volonté plus dégagiste, où les écologistes ont incarné une autre façon de faire de la politique, sont apparus comme des gens qui n'étaient pas des professionnels de la politique, qui étaient plus issus de la société civile, et qui avaient co-créé souvent leurs projets avec la population. Et là, c'est une aspiration qui était en phase. On rejette du politique classique, et ce sont les écologistes qui ont incarné ce mouvement. Et puis la troisième raison, et pas des moindres, c'est tout simplement l'adéquation entre le projet écologiste local porté par ces candidats et les populations locales qui, elles-mêmes, souhaitent de plus en plus qu'on prenne en compte les enjeux environnementaux, qu'on modifie le type de transport, qu'on soit sur des éléments plus doux en termes de déplacement. Et donc là, il y a une véritable volonté de changement qui est articulée avec la montée des préoccupations environnementales.
On s'interrogera longuement sur ces vieux routards de la politique qui ont lutté année après année pour réussir leur carrière en oubliant de lutter pour leur succession. Peut-être n'y a-t-il pas meilleure manière pour se croire irremplaçable que de laisser sa mairie à l'autre camp. En attendant, relisez La chute de la maison Juppé par Jefferson Desport et Xavier Sota aux éditions Le bord de l'eau. Superfell a été ruiné à la technique par José Bernays, piétiné à la production par Juliette Deveau et enfin complètement gâché à la réalisation par Vivien Demeyer. Superfell.